Moi, je vais commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième webinaire du CRT sur le thème du e-learning. Je vous demanderai, pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, de renseigner votre nom et numéro de téléphone dans la partie discussion sur la droite, afin qu'on puisse conserver les coordonnées de chacun. Donc, l'objectif de ce webinaire est de faire le tour des différentes sources d'apprentissage qui existent aujourd'hui, et de faire un parallèle entre le rédacteur technique et le concepteur pédagogique afin de savoir s'ils font appel aux mêmes compétences et s'il est possible de passer de l'un à l'autre. Si j'ai proposé de faire ce webinaire, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai été confrontée justement en tant que rédactrice technique à des jugements de personnes par rapport à mes compétences, notamment de créativité concernant des prestations en conception pédagogique. Donc, je pense que l'intérêt du webinaire est de savoir si on a chacun la possibilité de passer d'un monde à l'autre, et j'en parlerai à la fin. Dans un premier temps, je vais vous faire une introduction sur toutes les notions dont on avait parlé dans le petit résumé du webinaire. Donc, mon expérience de l'e-learning s'est plutôt faite aux États-Unis. Ma vision sera donc plus américaine qu'européenne. Comme il s'agit ici juste d'expliciter des notions, je pense que ça n'aura aucune incidence. Je pense qu'ensuite, vous pourrez transposer les explications au marché européen. Donc, je vais commencer par me présenter aux personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Sandrine Laurent, consultante en communication technique freelance depuis 2005. J'accompagne les entreprises, notamment dans la conception et la réalisation d'aides en ligne, de documents utilisateurs essentiellement dans le domaine du logiciel, et également, dans certains cas, pour la migration de jeux documentaires vers XML. Je forme des professionnels de la documentation technique pour les aider à améliorer la rédaction de leur documentation et les aider dans la conception et la réalisation de leurs aides en ligne. J'ai enseigné la rédaction technique et la rédaction structurée aux étudiants de licence professionnelle rédacteur technique de Paris Diderot entre 2007 et 2010. Et cette année, je leur ai enseigné la gestion de projet à l'aide du mind mapping. J'ai ouvert en septembre 2010 une école alternative dont la pédagogie est basée sur la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner, qui stipule que l'intelligence, dans la définition traditionnelle, ne prend pas en compte la diversité des capacités intellectuelles de l'être humain, et elle propose 8 catégories d'intelligence distinctes. Je vous raconte tout ça tout simplement pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'aborde aujourd'hui le thème du e-learning, qui m'intéresse beaucoup et pourquoi j'essaie d'utiliser mes compétences de rédactrice technique pour la création de modules e-learning. Donc, voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous ai mis une petite photo. Donc, le plan de la présentation, c'est donc expliciter la définition du e-learning, faire la différence alors je vous donne des termes en anglais parce qu'ils sont plus simples pour moi vu que toutes mes sources d'informations sont en anglais, mais j'ai essayé de traduire à la suite dans la présentation. Donc le formal et informal learning, le social learning, le rapid learning, le blended learning, le m-learning, serious games. Et en fin de présentation, je vous ferai un petit parallèle entre les compétences, les activités et les tâches de rédacteur technique. Et je ferai également la même chose pour le concepteur pédagogique pour faire un petit peu un parallèle entre ces deux métiers. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par e-learning? Le e-learning, c'est un terme désormais courant qui correspond à la formation en ligne. La définition de l'apprentissage en ligne donnée par l'Union européenne est l'e-learning et l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant d'une part l'accès à des ressources et à des services, d'autre part les échanges et la collaboration à distance. C'est une méthode de formation ou d'éducation qui permet théoriquement de s'affranchir de la présence physique d'un enseignant ou d'un formateur à proximité. En revanche, le rôle du tuteur distant apparaît souvent dans les activités de facilitateur et de médiateur. Donc, quels sont les éléments à prendre en compte pour construire des modules e-learning efficaces ? Nous pouvons résumer la manière dont l'être humain apprend en trois points. Donc, c'est une traduction qui vient de l'anglais, donc ce n'est pas forcément la meilleure traduction. Mais globalement, les trois idées, c'est si on me dit quelque chose, je l'oublierai. Si on me montre quelque chose, je m'en souviendrai. Et si je suis impliquée, je comprendrai. C'est-à-dire que si on a cette idée à l'esprit, quand on conçoit un module e-learning, en général, on fait bien attention à avoir tous les éléments essentiels à un module e-learning pertinent. Donc, cela permet d'utiliser les bons outils d'apprentissage pour chaque type de contenu. Inclure du contenu à lire, c'est-à-dire des mots-clés, des astuces, des résumés du module, des ressources supplémentaires à consulter pour encourager l'apprenant à aller rechercher par lui-même les informations. Inclure du contenu à regarder, ça veut dire des représentations visuelles, des concepts et informations sous forme d'images, vidéos, animations ou des démos pour renforcer l'information. Permettre à l'apprenant d'entendre les informations importantes pour renforcer la pertinence de l'information, comme des témoignages, des conseils. Et ensuite, on a intérêt à inclure des actions à réaliser par l'apprenant pendant le cours, par exemple des simulations, des exercices basés sur des scénarios et inclure de l'interactivité. Cela permet à l'apprenant de tester ses connaissances. D'un point de vue conception de module e-learning, pour construire un module e-learning efficace, on utilise le modèle ADDIE, donc en anglais, Analysis, Design, Development, Implementation et Evaluation, qui contient donc 5 phases. La phase d'analyse consiste en une analyse préliminaire de la demande de formation, une identification globale du travail de design à accomplir minutieusement. La phase de design, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, si à un moment, à la fin, quelqu'un a la question, je pourrais détailler. Pour l'instant, je vais simplement donner les grandes lignes. Donc, la phase de design vise à formaliser les données de la phase analyse en projet pédagogique ou en cahier des charges pour une action de grande ampleur. La phase de développement, c'est une phase qui concerne la construction des outils et supports de formation, c'est-à-dire leur identification ou leur élaboration. La phase d'implémentation consiste à diffuser le système d'apprentissage disponible aux apprenants. Elle se déroulera en deux plans selon la position de l'acteur concerné par cette phase, soit le formateur, le responsable pédagogique. Et la phase d'évaluation permet d'évaluer le dispositif pédagogique, ce qui permet de le réguler. Les évaluations peuvent être faites à différentes phases du processus de design pédagogique ou à la fin du processus. Donc, l'ingénierie pédagogique vise entre autres à l'optimisation du rapport résultat attendu coût de la formation. Aussi, cette phase d'évaluation est une appréciation de la productivité pédagogique. Donc, a une importance entre le module, les résultats du module et également les coûts de développement. Donc, ensuite, d'un point de vue de l'apprentissage, on a deux notions. Donc, la notion d'apprentissage en présentiel, ce que j'appelle « formal learning », Le contenu et la structure du cours sont définis par le formateur ou l'enseignant. Et le cours suit une chronologie dans laquelle les apprenants doivent atteindre certaines connaissances. Et également la manière dont ils partagent l'information avec leur père. Donc à la fin du cours, en général, dans un apprentissage en présentiel, on reçoit un certificat d'aptitude en tant qu'apprenant, bien évidemment si la formation a été bien suivie, tout dépend de la manière dont on évalue le travail de l'apprenant. Donc dans les entreprises, le Forum on Learning se fait sous forme de séminaires, de conférences, de formations, de programmes e-learning. Bien entendu, le discours est régulé par l'entreprise. Donc, ce que j'entends par informal learning, c'est l'apprentissage informel qui regroupe tous les apprentissages obtenus de manière informelle à partir de discussions ou d'observations des autres. L'apprentissage informel se fait à n'importe quel moment, n'importe où, par exemple au travail, lors de discussions avec des collègues, à la maison, avec des amis. Ce type d'apprentissage n'est jamais organisé ou planifié. Il apparaît quand les apprenants ont un besoin particulier. Les informations partagées par le biais des médias sociaux, comme Twitter, Facebook, LinkedIn ou les forums de discussion, facilitent cet apprentissage informel. Ce type d'apprentissage se fait sans effort de la part de l'apprenant. Les recherches ont montré que 20% de l'apprentissage se fait dans des formations en présentiel, alors que 80% des apprentissages se font de manière informelle. Donc l'apprentissage informel se heurte tout de même à des limites, car il est impossible de vérifier la véracité des informations et d'évaluer les apprentissages. Ce que j'entends par social learning, donc le social learning, ce sont les technologies collaboratives qui fournissent différents outils comme la vidéo, les conférences en ligne, la messagerie instantanée, les wikis, les blogs, et qui ont changé la manière dont le monde fait des affaires. Ces nouvelles technologies participent à la modification des habitudes en matière d'apprentissage. Les apprenants contrôlent désormais les informations qu'ils recherchent, la manière dont ils mènent cette recherche. Donc, en résumé, le social learning aide les individus à rester informés et ouvre des perspectives nouvelles. L'apprentissage se fait sur une base collaborative avec la participation de chacun. Et une étude du e-learning guild, qui est une association professionnelle de tous les intervenants d'un point de vue e-learning, donc aux États-Unis, auprès de 50 000 personnes à travers le monde âgées de 16 à 60 ans, montre que les utilisateurs mobiles passent plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à lire ou à répondre à leurs emails. L'étude montre également que ces personnes passeront encore plus de temps sur les réseaux sociaux dans le futur. On a également de nombreuses études qui ont montré que les jeunes utilisateurs d'Internet préfèrent utiliser les réseaux sociaux auxquels ils font confiance plutôt que les emails. Quels sont les moyens utilisés pour ce social learning? On a notamment les blogs, qui sont des journaux en ligne organisés de manière chronologique et mis à jour régulièrement. De nombreux blogs donnent la possibilité aux lecteurs de laisser des commentaires, ce qui peut initier une conversation sur le sujet traité. Les blogs sont très populaires et proposent un contenu en ligne important. Ils contiennent des opinions personnelles, des commentaires et proposent également régulièrement des marches à suivre. Donc, comme poster du contenu sur un blog est très simple et rapide, c'est un bon moyen d'obtenir des informations immédiates et ça répond aux besoins des personnes qui sont à la recherche d'informations à jour. On a également les wikis, Donc, ils sont des applications web qui permettent à des groupes d'utilisateurs d'ajouter et d'éditer du contenu web de manière collaborative sans avoir de connaissances particulières en informatique. Les wikis sont particulièrement utilisés pour créer et maintenir des bases de connaissances et peuvent contenir de nombreuses bonnes pratiques. On a également une forme de partage de médias, c'est-à-dire que il est très facile aujourd'hui de partager des vidéos sur YouTube ou des présentations PowerPoint sur SlideShare, par exemple, ce qui rend le partage des médias aussi simple que le partage de texte via les blogs et les wikis. Donc, le contenu peut être partagé très rapidement. Je sais que depuis, on va dire, 6-8 mois, j'ai remarqué que énormément de supports se faisaient maintenant en vidéo. Ça paraît plus facile, plus simple. Il y a beaucoup de formations qui se font désormais via la vidéo. C'est une autre forme d'apprentissage. Donc, quels sont les avantages de cet apprentissage via les social medias? C'est que les technologies deviennent des outils d'apprentissage. Les aspects collaboratifs offrent divers points de vue, permettent d'apprendre des autres et ouvrent de nouvelles perspectives. En effet, ils améliorent les compétences de chaque apprenant en ce qui concerne la recherche et l'utilisation de l'information et permettent d'offrir un support performant dans les situations où les informations changent rapidement. Je vais maintenant passer à la notion de rapid learning. C'est ce qui me parle le plus puisque c'est ce type de learning que je réalise aujourd'hui. Donc, le développement de modules de rapid e-learning, alors moi je l'appelle rapid learning, on a les deux terminologies. Donc, ça signifie utiliser des outils qui demandent peu de connaissances en programmation. Donc, ils permettent aux concepteurs pédagogiques de transformer un contenu PowerPoint, par exemple, en matériel pédagogique en un temps très court. Alors que la réalisation de modules e-learning classiques peut prendre plusieurs mois. Donc, la réalisation de modules rapid learning peut prendre quelques semaines. Le développement est court, c'est pour ça qu'il est financièrement intéressant pour les entreprises. Je vais vous présenter quelques caractéristiques du développement de modules rapid e-learning. Donc, le développement est possible avec des outils tels que Captivate, Articulate ou Lectora. Moi, j'utilise personnellement Captivate. Il est facile d'intégrer du contenu dans les modules déjà existants. Le temps de développement est vraiment très court. Aucune connaissance en programmation est nécessaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et si la durée de vie des modules est courte, la mise à jour est très simple. Donc, il est facile de reprendre un module existant et de le mettre à jour en très peu de temps. L'avantage majeur du développement de modules Rapid Learning est le temps de développement très court. Les concepteurs pédagogiques, en collaboration avec les experts, on travaille de la même manière qu'un rédacteur technique travaille avec les experts du domaine. Donc, dans le rapid learning, on peut être directement entre le concepteur pédagogique et les experts, travailler ensemble à la réalisation du cours sans avoir besoin impérativement de faire appel à des informaticiens. Je vais ensuite aborder le thème du blending learning. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une notion que je n'arrive pas à déterminer en français. Bien que le concept, je le comprenne, je n'ai pas trouvé de traduction en français. Donc, c'est le mélange entre l'e-learning, donc... comme je vous l'ai présenté jusqu'ici, et la formation en présentiel. Donc, concevoir une offre de blended learning, c'est proposer une solution qui permette aux apprenants d'atteindre les objectifs d'apprentissage en essayant de créer un contenu réutilisable. Le blended learning est la solution qui semble la plus complète aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui veulent se mettre au e-learning et on s'est rendu compte que juste le e-learning n'était pas suffisant et il est important que les apprenants soient aussi en contact avec un formateur. Donc maintenant, on construit des offres complètes grâce au blended learning. On a également une notion qui est le M-learning ou le mobile learning, aujourd'hui qui, dans les conversations des personnes du e-learning, c'est vraiment la notion qui monte, celle dont on parle le plus. Donc, il se réfère à un concept qui consiste à fournir des connaissances ou des informations par le biais d'appareils comme les smartphones, les tablettes, tablettes PC, iPad, iPhone ou tout autre appareil que l'on peut prendre avec soi dans la main. Ces technologies mobiles n'ont jamais eu au départ de but pour l'apprentissage. Elles ont été pensées comme des outils de communication, voire d'amusement. Cependant, de nombreux développeurs ont compris le fort potentiel du M-learning, tant d'un point de vue des individus que des organisations. Donc, quelles sont les principales caractéristiques du M-learning ? Donc, il est pratique et facile d'accès. Le M-learning permet un accès rapide aux apprentissages au moment et à l'endroit choisi par les apprenants. Comme les apprenants ont a priori toujours leur smartphone ou leur iPad avec eux, ils peuvent avoir accès aux cours ou aux outils d'apprentissage n'importe où, n'importe quand, c'est-à-dire entre deux rendez-vous, pendant des voyages d'affaires, entre des moments d'attente particuliers, voire dans les transports également. C'est un apprentissage à la carte. Donc, le M-learning répond aux besoins impulsifs de l'apprenant d'accéder à l'information. Aujourd'hui, quand on a besoin de consulter un itinéraire ou les horaires de cinéma dans notre quartier, eh bien, on utilise Internet. Et le M-learning apporte le même type de commodité aux employés ou aux apprenants pour accéder aux informations relatives à leur travail en un seul clic ou en toucher de doigt aussi, hein, si on est dans la notion d'iPhone, d'iPad. Donc les modules de M-learning sont souvent courts. Ils sont d'une durée d'environ 5 minutes. Et c'est pour ça qu'un module de M-learning contient uniquement une idée principale ou un contexte ou un concept, pardon, à chaque fois. Donc le contenu du e-learning est du M-learning, pardon, est souvent contextuel. La formation se réfère à une situation spécifique ou un contexte que les apprenants ne trouvent par eux-mêmes. Les modules M-learning sont des solutions d'apprentissage mobile qui sont concentrées sur le partage des apprentissages qui trouvent une application immédiate. Ensuite, je vais vous parler de la notion de serious games. Donc, c'est également, il y a deux ans, c'était ce type de e-learning qui était très répandu et qui était vraiment en vogue, bien avant le M-learning. Les serious games, ce sont des jeux complexes dont le but est d'enseigner des compétences complexes. Donc, par exemple, l'industrie de la défense ou le gouvernement utilise ces jeux, donc en français qu'on dit jeux sérieux, pour des missions critiques ou pour des mises en situation quasi réelles. Donc ces jeux sont souvent multi-utilisateurs et très complexes à réaliser, ils sont très coûteux, mais reviennent tout de même moins cher que des mises en situation réelles, notamment quand on parle du gouvernement, dans l'armée, dans l'aviation, dans l'aéronautique. Je ne vais pas m'étendre parce que c'est un sujet que je connais moins. Par contre, on se rapproche vraiment dans le serious game des jeux vidéo. Donc ça plaît beaucoup aux générations plus jeunes qui sont déjà baignées dans le monde virtuel des jeux vidéo. Je vais ensuite me pencher sur la question du rédacteur technique en parallèle avec le concepteur pédagogique. Donc j'ai créé un profil type de chacun des métiers, sachant que le spectre peut être bien entendu beaucoup plus large. Voilà. Donc, je vais commencer par le rédacteur technique. Donc, le rédacteur technique, ses compétences, ce sont les aptitudes à la recherche d'informations, des qualités rédactionnelles, un goût pour la technologie, la connaissance d'un ou plusieurs outils tels que FrameMaker ou RoboWeb. Il y en a bien d'autres, bien entendu, mais ce n'était pas le sujet aujourd'hui. C'était vraiment pour faire un parallèle entre les deux métiers. Il est important d'avoir un bon esprit de synthèse et d'être un bon communicateur. Donc, ce rédacteur technique au quotidien, bien entendu au sens large du terme, il crée des manuels d'aide, des guides d'installation, des manuels comme des manuels de référence, des manuels de maintenance pour divers produits dits de haute technologie. Il peut aussi créer des documents, alors marketing ou autre, participer à du contenu sur des blogs, il peut créer des tutoriels vidéo. Et des démos aussi. Donc on rejoint, quand on est dans ce type d'activité, un petit peu les notions que je vous ai données tout à l'heure par rapport à la formation. D'un point de vue général, ces tâches, c'est bien évidemment de comprendre pourquoi les gens ont besoin du produit ou de l'application documentée. C'est comprendre la cible, donc qui va utiliser le produit et pourquoi. Décider quel type d'information sera pertinente pour les utilisateurs. Son rôle est également d'interagir avec les experts pour obtenir la bonne information. Structurer le contenu d'une manière logique. Suivre ou fixer des normes et des lignes directrices pour la rédaction. Écrire de façon concise et précise. Présenter l'information en utilisant des visuels ou des textes, soit les deux, soit un seul, c'est à lui de faire des choix. Son rôle est bien évidemment de s'assurer que l'information est utile pour les utilisateurs. C'est un peu redondant, suite au premier webinaire, le lecteur n'est pas... n'est pas le même dans la conception, donc je ne vais pas utiliser le mot lecteur. Et son rôle est bien entendu de tester la documentation. Donc là, c'était une grande idée du rédacteur technique. Donc je vous propose de faire le parallèle avec le concepteur pédagogique, avec un profil également assez simple, parce que le concepteur pédagogique, il peut quand même faire beaucoup d'autres choses, mais tout dépend du contexte dans lequel il se trouve, comme le rédacteur technique. Donc, ses compétences, ce sont des aptitudes à la recherche d'informations, des aptitudes à saisir rapidement n'importe quel sujet, la créativité, un esprit d'analyse et une connaissance des outils de conception graphique, donc Photoshop, Flash, mais bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Captivate, Articulate, c'est bien d'en connaître au moins un de ceux-là. Et également d'être bon communicateur. Donc, son quotidien, c'est plutôt lui de créer des modules e-learning ou tout autre support de formation, ou déroulé pédagogique aussi, hein, parce qu'il y a tout un cheminement de situation pour arriver aux objectifs pédagogiques. Donc lui, ses tâches, c'est comprendre pourquoi le client a besoin du programme de formation ou du programme d'e-learning. C'est également comprendre qui suivra le cours et les attentes des apprenants. Comprendre le sujet à fond, bien entendu, pour être capable d'arriver aux objectifs pédagogiques. De décider quelles sont les informations à présenter. Voilà. Décider de la façon de présenter l'information en incluant des visuels, du son, des exercices interactifs. Également interagir avec les experts pour obtenir l'information requise. On a aussi une notion de structuration d'information de manière logique. Son rôle également est d'évaluer l'apprentissage pour être sûr de coller aux objectifs pédagogiques. Et il se doit de faire des essais pilotes afin de vérifier que le cours est utile et attrayant et que tout fonctionne bien avant la mise en place sur le LMS, donc le Learning Management System. Donc, à mon sens, par rapport à ce que je viens de vous dire, je pense que ces deux professions comportent des similitudes, autant d'un point de vue des tâches que d'un point de vue des compétences. C'est vrai qu'ils ne réalisent pas le même type de support. Par contre, on a besoin, dans les deux cas, des aptitudes à la recherche d'informations, la connaissance d'outils dans notre domaine, et il faut dans tous les cas être bon communicateur. C'est vrai que la créativité, donc quand on est quand on regarde les offres d'emploi, si on regarde un petit peu le profil recherché dans les concepteurs pédagogiques, on recherche de la créativité chez le concepteur pédagogique. Mais à mon sens, le rédacteur technique a également besoin de créativité. Alors, peut-être pas de la même manière, mais pour concevoir une documentation, j'estime qu'on a également besoin de créativité. L'esprit d'analyse, on a besoin dans les deux cas. Et il est important, de toute façon, de savoir parler avec les experts pour comprendre le sujet, soit documenté, soit... à présenter dans la formation. Donc, en ce qui me concerne, si j'apprécie le travail de rédacteur technique, je pense qu'il m'aide beaucoup par rapport à la structure que j'ai dans mon travail, dans ma manière d'aborder les sujets. Ils m'aident beaucoup dans ma conception d'e-learning parce que j'ai déjà une bonne base sur la rigueur, sur me poser les questions, essayer de comprendre le sujet dont on parle. Donc, je pense qu'après, il s'agit plutôt de sensibilité personnelle. Moi, j'aime beaucoup former les gens et leur donner des éléments pour qu'ils montent en compétences. Je pense que ce n'est pas la sensibilité de tout le monde. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que moi, en tant que rédactrice technique, je m'estime proche du concepteur pédagogique. À mon avis, pour réussir, c'est vraiment une question de goût. Et c'est vrai que, donc je vous disais par rapport à mon expérience professionnelle, qu'on m'avait dit qu'un rédacteur technique n'était pas du tout créatif et donc c'était compliqué de passer de rédacteur technique à concepteur pédagogique. Là, j'étais dans un contexte franco-français, dans ce cas-là. Alors que quand j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis avec suivre de grandes conférences annuelles, notamment du E-Learning Guild, quand je disais que j'étais rédactrice technique là-bas, on me disait que le rédacteur technique faisait le meilleur concepteur pédagogique. Donc il s'agit vraiment de vision, à mon avis. C'est pour ça que je voulais vous faire partager un petit peu cette information. Moi, je connais de nombreux rédacteurs techniques qui font à la fois de la rédaction technique et à la fois de la conception e-learning. Donc, écoutez, je pense que là, on peut échanger. Ça peut être l'occasion de poser des questions, d'ouvrir un petit peu les questions et que chacun puisse intervenir. J'espère que j'ai été un petit peu claire, parce que ces notions, elles sont nombreuses. C'était simplement pour vous donner un petit peu des idées sur ce qui se fait aujourd'hui en matière d'apprentissage. Donc, je vous laisse poser vos questions.